Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Après le temps de la confusion, peut-être celui de la clarification. À un peu plus d'un mois du premier tour de la présidentielle, le paysage se décante. Ils seront 11 à concourir le 23 avril prochain. Certains ont déjà été candidats. Aucun n'a exercé la fonction présidentielle. Ce soir, 5 d'entre eux vont débattre à la télévision. Nicolas Dupont-Aignan, qui réclamait à TF1 d'ouvrir la discussion à l'ensemble des prétendants, a été désavoué par le Conseil d'État. Pour les juges, la composition du plateau de ce soir ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme. Alors, à moins d'une surprise monumentale, monumentale étant ici un euphémisme, c'est parmi les 5 débatteurs de tout à l'heure que se trouve le prochain président de la République. Élu le dimanche 7 mai, il ou elle n'aura que 6 semaines pour savourer sa victoire. Car ensuite, et bien ensuite, bien malin, qui pourrait prédire avec quelle majorité pourra travailler le 8e président de la 5e République ? Car gagner en avril n'est pas un gage de triomphe en juin. L'Assemblée nationale pourrait bien être d'une autre couleur que celle du chef de l'État, si tant est qu'une couleur parvienne à s'imposer. Alors la présidentielle va-t-elle accoucher d'un régime parlementaire ? Eh bien, nous posons la question ce soir à 3 invités. Marie-Anne Coandet, bonsoir. Vous êtes professeure de droit public à Paris 1, c'est la Sorbonne, spécialiste des institutions de la 5e République. Vous avez fait votre thèse sur les rapports entre président de la République et Premier ministre en période de cohabitation. Je le précise parce que j'imagine que ça va être un des sujets de notre discussion de ce soir. Pour discuter avec vous, Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques. Vous avez publié à la fin de l'année dernière « En finir avec le président » aux éditions François Bourin. Et puis, troisième invitée, Hélène Becmézian, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, rédactrice en chef adjointe du Monde.fr. Vous avez passé 4 ans et demi à l'Assemblée nationale et de ce passage comme journaliste parlementaire, vous avez tiré un livre, « J'irai dormir à l'Assemblée, les secrets du Palais Bourbon » qui vient d'être publié chez Grasset. Vous n'y dormez plus désormais parce que vous avez changé de fonction, mais peut-être aussi parce que ça ne servirait pas à grand-chose d'y dormir en ce moment. La session parlementaire s'est achevée il y a un mois.
La session parlementaire s'est achevée fin février, oui.
Ça veut dire qu'il ne se passe plus rien aujourd'hui à l'Assemblée nationale ?
L'Assemblée est encore ouverte, des députés y reçoivent encore pour des réunions, des rendez-vous, je crois que le président y est toujours, mais il n'y a plus de travaux, effectivement, ils ne rouvriront qu'avec la nouvelle législature au mois de juin.
Voilà, après les législatives. Mais avant les législatives, il va donc y avoir cette élection présidentielle avec, alors, hypothèse, on ne va pas être que dans les hypothèses ce soir, mais enfin, il faut bien en faire quelques-unes. Sur la foi des sondages, l'hypothèse, ce serait celle d'un second tour sans François Fillon ni Benoît Hamon, autrement dit, sans les représentants des deux principaux partis de gouvernement que sont les Républicains et le Parti Socialiste. Est-ce que ce serait une configuration inédite sous la Ve République, Marie-Anne Coandet ?
Alors, ça serait une configuration inédite en ce que, effectivement, ces deux candidats-là ne sont pas des grands leaders de parti. Alors qu'habituellement, sous la Ve République, c'est le chef d'un grand parti qui se présente. Alors, il y a tout de même des exceptions déjà au début de la Ve République, parce que De Gaulle, on s'en souvient, était très anti-parti. De Gaulle n'aimait pas les partis politiques et il voulait se placer en dehors et au-dessus des partis politiques. Et donc, toute la philosophie de la Ve République est construite autour de cette idée. Le président de la République n'est pas un chef de parti. Il est en dehors et au-dessus des partis.
Donc, vous nous dites que finalement, toute la Ve République est construite pour éventuellement rendre possible l'hypothèse que je viens d'évoquer ?
Mais exactement. On a tous l'impression, et c'est un paradoxe incroyable, on a tous l'impression que si le président de la République n'a pas une majorité claire à sa botte ou contre lui, parce que la cohabitation connaît déjà, alors on va être perdu. Alors qu'en réalité, toute la Ve République a été écrite spécialement pour ça. Parce que justement, sous les 3e et 4e, on n'avait pas de majorité. Et donc, Michel Debré et De Gaulle ont écrit la 5e en concevant absolument tous les articles avec l'idée qu'on n'aurait pas de majorité parlementaire. Donc si demain, le président n'a pas de majorité, c'est pas un problème, la Constitution est faite pour ça.
Voilà, une vision de la 5e qui n'est pas celle qu'on entend traditionnellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Olivier Roucan ?
Je ne suis pas en désaccord total, puisque c'était aussi le sens du septennat, finalement. Or, il me semble que nous avons changé de ce point de vue de régime, sans le dire, quelque part, avec le quinquennat. Et le problème posé est la correspondance de la durée des mandats législatifs et du président, et l'automaticité de cette présidentielle pré-législative. Et ceci entraîne une confusion auprès des citoyens et des acteurs aussi finalement sur le rôle du président d'une part et du premier ministre d'autre part. C'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi, pour une même fonction exécutive désormais, du fait de cette durée des mandats comparable, on a toujours ces deux rôles. C'est-à-dire que le président de la République arbitre, le président de la République qui décide des grandes orientations, qui a la légitimité spécifique, avec ses pouvoirs propres de dissolution et de référendum. Curieusement, depuis le quinquennat, il ne les utilise plus, du fait de précédents ratés d'ailleurs. Mais ce président joue donc un premier ministre hyperactif de temps en temps, et de temps en temps, il doit suppléer un premier ministre. C'est le cas, par exemple, par rapport à Jean-Marc Ayrault, François Hollande, il supplée aux fragilités du premier ministre. Alors, ce qui se passe, finalement, c'est qu'on a un président hyperactif qui ressemble à un premier ministre, mais qui finit par le fragiliser, à ce président. Donc, on a, avec le quinquennat, un président fragilisé parce que son rôle est devenu flou, un premier ministre fragilisé parce qu'il a un président qui a tendance, de temps en temps, à vouloir jouer son rôle, et un Parlement qui n'a pas plus de pouvoir. Donc c'est une somme, si je puis dire, de soustraction, le quinquennat, pour moi, rapport à l'idée de la Ve République de départ.
Ce qui plaide peut-être pour une idée que l'architecture de départ de cette Ve République était particulièrement subtile et que ça permettait d'avoir un véritable équilibre, et qu'en modifiant cet équilibre, on a fragilisé un petit peu toutes les têtes du pouvoir. C'est aussi votre avis, Hélène Bacnésian ?
Oui, c'est effectivement ce que moi j'ai constaté à l'Assemblée, et je pense que c'est une des source de ce qu'on a appelé la fronde socialiste. C'est en tout cas ce qu'eux-mêmes mettaient en avant. C'était un questionnement des rapports majorité-exécutif dans ce nouveau système, effectivement, où les députés sont élus dans la foulée de la présidence. Et donc, il y a cette idée qui a été mise très tôt dans la tête des députés socialistes en 2012 et qu'on a tenté, quand je dis « on », c'est les responsables de l'exécutif, ont tenté de leur redire régulièrement. En gros, vous ne devez votre élection qu'au président. Donc, vous devez faire ce que le président décide. Et quand les frondeurs socialistes ont commencé à critiquer, le tournant a été le pacte de compétitivité avec cet engagement de 40 milliards en faveur des entreprises, ils ont critiqué, bien sûr, la mesure économique, mais ils ont surtout critiqué la forme. Et de dire, comment se fait-il qu'un président peut décider, tout seul, un pacte qui n'était pas prévu dans les engagements, qui n'est pas le programme sur lequel il a été élu, et la majorité doit suivre.
C'est d'ailleurs pas totalement anodin le fait qu'on les ait appelés des frondeurs, c'est-à-dire qu'on considère aussi, peut-être dans la conception générale, qu'un député qui appartient à une majorité présidentielle doit systématiquement voter les textes qui sont présentés par cette majorité.
Oui, et en plus ça s'est doublé du fait qu'il y avait beaucoup de députés socialistes qui n'avaient jamais été députés auparavant, ce qu'on appelle des primo-députés, qui ont en plus découvert ça en même temps et dont beaucoup ne l'ont pas accepté. Un des frondeurs en chef, si on peut dire, qui s'appelle Laurent Baumel, a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Quand le Parlement s'éveillera », où il décrit tout ça très bien et qu'il a été effaré de constater à quel point les députés de la majorité sont le petit doigt sur la couture du pantalon au cours des débats, avec des amendements qui sont retirés au dernier moment, cette impossibilité d'aller jusqu'au bout des mesures qu'ils voudraient mettre en avant si elles sont en contradiction avec celles de l'exécutif.
Alors si on part du principe que l'Assemblée nationale procède de l'élection présidentielle qui la précède de quelques semaines, est-ce qu'on est toujours, là aussi, alors je me tourne à la fois vers le côté historique de la Ve République, Marianne Courandé, est-ce que l'on peut émettre comme hypothèse pour les prochains scrutins à venir, est-ce qu'on peut considérer que l'appel d'air est toujours suffisamment fort pour que la majorité parlementaire suivent à peu de choses près ce qu'a été le résultat de la présidentielle, ou bien est-ce que là encore, aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration qui n'a plus rien à voir avec ça ?
Alors tout est possible. Tout est possible, vraiment. On peut très bien imaginer qu'il y ait un appel d'air qui se fasse comme ça se fait traditionnellement sous la Ve. Et pourquoi ça se fait ? Parce que depuis 1962, depuis le bras de fer où De Gaulle a imposé sa volonté aux parlementaires, les parlementaires ont intégré le fait que s'ils ne sont pas justement le doigt sur la couture du pantalon, ils risquent une dissolution. Et ça, c'est vraiment intégré très profondément, même si avec les frondeurs et tout ça, il y a eu des nuances. L'idée générale, c'est ça. Donc, il y a cette possibilité d'un appel d'air qui donne une majorité un président ou un autre. Ce n'est pas totalement exclu, mais ça paraît peu probable.
Oui, parce qu'il faut quand même avoir déjà une petite assise parlementaire. Je reste toujours sur les sondages. Les deux candidats qui sont donnés favoris aujourd'hui, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a deux députés à l'Assemblée nationale, enfin, un plus un même, parce qu'il y a Marion Maréchal Le Pen, et puis l'avocat Gilbert Collard, voilà, qui appartient au Front National tout en étant un petit peu en dehors. Et puis Emmanuel Macron, alors lui, on ne sait pas très bien sur qui il peut compter, mais ça ne se constitue pas comme ça du jour au lendemain, une majorité parlementaire.
Non, une majorité ne se constitue pas comme ça. Alors le plus probable, c'est qu'effectivement, on ait une majorité divisée. Alors, l'hypothèse d'une cohabitation. En fait, il y a de deux choses l'une. D'abord, soit il y a une majorité, soit il n'y en a pas. S'il y a une majorité, elle peut être favorable au président ou hostile au président. Imaginons qu'une Marine Le Pen soit élue, il y a de fortes probabilités qu'elle se trouve ensuite en situation de cohabitation avec une majorité unie contre elle. Bon, ça serait quand même une cohabitation différente des précédentes parce qu'elle n'a pas la même conception de la démocratie que les présidents précédents.
D'autant que du côté du Front National, quand on écoute les gens du FN, dans leurs hypothèses les plus optimistes, ils tapent sur une centaine de députés à l'Assemblée nationale, ce qui est très loin de faire une majorité absolue.
Exactement. Donc là, forte chance qu'on ait une cohabitation qui pourrait être très sportive, parce que déjà, on se souvient, en 2002, M. Le Pen disait qu'en cas de cohabitation ou en cas de protestation contre lui dans les rues, il n'hésiterait pas à utiliser l'article 16 qui lui donne des pouvoirs exceptionnels et qui, donc, est en fait une suspension de la démocratie, donc quelque chose de très dangereux. Deuxième hypothèse, il n'y a pas de majorité. La majorité est complètement divisée, que ce soit M. Macron ou Mme Le Pen au pouvoir. Là, il faudra que les partis se mettent d'accord. Alors là, plusieurs options. Et on a parmi ces options, celle d'une alliance droite-extrême-droite, qui était le contexte qu'on a connu au moment de la montée du nazisme en Allemagne. On ne peut pas exclure totalement cette hypothèse. Dans le contexte mondial où nous sommes actuellement, c'est une des possibilités. Après, autre possibilité, une majorité divisée en présence d'un monsieur Macron.
Alors, beaucoup d'hypothèses et finalement aucune, en tout cas, qui ne correspond à ce qu'on a connu au cours des derniers quinquennats, en tout cas, Olivier Roucan.
Des quinquennats, non, en effet, puisque ça a été une des justifications en partie du quinquennat à l'époque, même si, à mon avis, ça a été d'éviter les cohabitations. Hein. C'était un des arguments utilisés.
Système pourtant, paraît-il, très apprécié des Français.
Alors, non seulement apprécié, mais en plus, un des arguments pour dire évitons la cohabitation à tout prix était de dire parce qu'on ne fait pas de réforme sous la cohabitation. Le moins qu'on puisse dire est que, rétrospectivement, on peut constater qu'il y a eu plus de réformes parfois sous certaines cohabitations structurelles que dans le cadre du quinquennat sans cohabitation. Donc tous ces arguments tombent un peu. Mais pour revenir à ces différents scénarios-là, c'est vrai que le climat est très incertain, mais se posera la question, en effet, suivant l'importance du groupe du Front National, qui sera de toute façon plus important qu'il n'est à l'heure actuelle. On l'a vu, le Front National utilise et s'approprie progressivement le mode de scrutin majoritaire à deux tours, qui pour l'instant le barrait. Donc il aura plus de députés qu'avant, mais en fonction de l'importance du groupe, la question se posera pour la droite classique de son positionnement. Et donc on peut tout à fait imaginer ce qui avait déjà eu plus ou moins lieu en 98 et au-delà, une implosion de la droite classique sur le récit Front National et par rapport à la question des alliances de gouvernement. Vous voyez ? Et ceci peut se produire dans le cas d'une élection de Marine Le Pen, mais peut aussi se produire dans le cas d'une élection de François Fillon. Parce que la majorité de la droite, si François Fillon est élu, la majorité, donc les Républicains, UDI, face à un groupe Front National assez important, dans le temps, pourra se fissurer. Et on pourra avoir une recomposition en cours de législature, éventuellement d'une majorité. Et puis, si c'est Emmanuel Macron, se pose le problème, là, du Parti Socialiste, par rapport à l'importance de En Marche et de ce que cela prendra au sein du...
Donc, ce qui est notable... Parce que c'est valable, en fait, d'ailleurs, si c'était Benoît Hamon, par exemple, qui se retrouvait élu, parce que les problèmes avec le Parti Socialiste ne seraient pas forcément réglés.
Enfin, voilà. Donc, finalement, le problème de fond,
dans toutes les hypothèses, finalement, dans tous les cas de victoire, on voit bien que ça serait compliqué.
C'est la fragilisation énorme des partis de gouvernement. Et c'est ça, en fait, le fort degré d'incertitude pour la suite, c'est la fragilisation des partis de gouvernement qui ont tenu la Ve République depuis progressivement 65.
Fragilisation des partis de gouvernement, elle est de Bec-Mézian, mais peut-être l'occasion d'une revalorisation du rôle du député, dont vous dites, enfin vous écrivez, qu'ils sont déconsidérés par l'opinion publique, muselés par les institutions et l'administration. Là, il y aurait peut-être l'occasion justement de redonner un peu de pouvoir à ces parlementaires.
Il suffit de regarder, de se pencher un petit peu sur le passé. Vous interrogez les députés socialistes qui étaient là entre 97 et 2002, ils en gardent tous un excellent souvenir. Finalement,
97-2002, je rappelle, donc, Lionel Jospin à Matignon.
Était Premier ministre, Jacques Chirac à l'Élysée, cohabitation. Et finalement, le Parlement n'a jamais été aussi heureux, si on peut dire, en tout cas dans l'histoire récente, que ces dernières années. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement, ça avait résolu de fait ce problème d'exécutif à deux têtes. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, si le Premier ministre dit non, on demande au Président, il fallait faire front commun contre le Président. Donc le Premier ministre et la majorité avaient une relation très forte. Et puis il y avait aussi cet élément que le PS n'avait pas de majorité absolue, ce qui n'était pas le cas en 2012. En 2012, il a été élu avec une majorité absolue. C'est-à-dire qu'il avait beau avoir passé un accord électoral avec les écologistes ou avoir fait rentrer des radicaux de gauche au gouvernement, le PS pouvait décider de ce qu'il voulait à l'Assemblée car il avait une majorité absolue franche. Ce n'était pas le cas en 97-2002. Il y avait ce qu'on appelait la majorité plurielle qui poussait à faire des accords et qui donc poussait à dialoguer avec le Parlement et dialoguer avec la majorité. Et les députés qui étaient là-bas, qui étaient élus à cette époque-là, ça tient évidemment aussi à la personnalité de Lionel Jospin, à la personnalité des ministres qui étaient en place, Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, qui avaient une culture parlementaire importante. Mais c'est vrai que finalement, la cohabitation à ce moment-là, en tout cas, a été plutôt une bonne chose pour les députés qui ont pu exercer leur rôle, qui ont pu, par exemple, une des lois importantes, le Pax, ça vient des députés. C'est une initiative parlementaire qui a été votée pendant la cohabitation.
Donc, juste pour dire que comparativement quand même, on peut aussi expliquer l'attitude et le comportement des députés par rapport aux chances qui sont données tout au long du quinquennat aux leaders socialistes en fonction d'être réélus. Et sur Lionel Jospin, jusqu'au dernier moment, jusqu'en 2001, ils étaient tenus surtout parce que ça marchait. Oui. Et parce que Lionel Jospin était crédité de succès. Et d'ailleurs, à partir du moment, les municipales où le vent tourne, là, curieusement, la majorité plurielle, dite plurielle, se délite.
Martine Aubry quitte le gouvernement, Dominique Strauss-Kahn également.
Et alors que là, finalement, assez tôt, l'impopularité abyssale du pouvoir a permis aux frondeurs, pour des raisons, il faut gérer la suite, il faut parier sur... J'allais presque dire que certains frondeurs ont assez tôt parié sur l'échec en 2017 et qu'une partie de cette présidentielle à gauche s'explique par ce pari à l'heure actuelle.
Les députés socialistes aujourd'hui, Hélène Bec-Mézian, ils ont envie d'y retourner en juin prochain?
Alors, majoritairement oui, mais c'est vrai qu'il faut noter qu'il y a beaucoup de députés, notamment de primo-députés, qui arrêtent après un seul mandat. Alors, on est dans de l'ordre d'une dizaine, c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. C'est-à-dire des députés qui, d'une part, considèrent qu'on n'est plus député à vie, et puis qui ont été, d'une certaine manière, déçus, ou qui ont en tout cas vécu pas mal de désillusions au cours de leur premier mandat, à cause de tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire de l'impossibilité de dialoguer avec l'exécutif, de ne pas être écouté sur des sujets parfois très concrets qui leur étaient remontés en circonscription, et toujours des fins de non-recevoir. Et encore une fois, ça tient aux personnalités, au président de groupe Bruno Leroux, qui avait un comportement assez autoritaire, Jean-Marc Ayrault, avec qui il était difficile de discuter, Manuel Valls, avec qui on pouvait discuter, mais en fait qui était tout aussi inflexible. Donc effectivement, il y en a un certain nombre qui ne se représentent pas, sans compter évidemment la loi sur le non-cumul, qui oblige à faire un choix, pour ceux qui sont maires également, à faire un choix entre la mairie et la députation.
On voit bien qu'il y a un fort paradoxe, finalement, Marianne Corandet, c'est-à-dire que l'impression que plus finalement une majorité dispose d'une large assise et d'une majorité très absolue, et plus l'impression que le pouvoir finalement se sclérose, et que la façon peut-être de rendre le plus vivace possible, justement, c'est les formations qui participent au gouvernement, c'est de les placer dans des situations plus instables, comme peut l'être la cohabitation.
Oui, alors pour la cohabitation, effectivement, comme il y avait un risque, puisqu'il y avait un président hostile et que la majorité était petite, il fallait absolument serrer les coudes pour tenir le choc. Alors que quand la majorité est très large, bon, on sait qu'on est au pouvoir pendant 5 ans, tranquillement, et on peut donc s'amuser à se disputer. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avec le parallèle avec la cohabitation. Il faut se souvenir qu'avant 1986, pendant un quart de siècle, on nous avait dit à chaque élection législative, législative, il faut absolument donner une majorité au président, sinon ça va être l'horreur, le retour à la 4e République, l'instabilité, le pays ne sera plus gouvernable. Et chaque fois, les Français, bien sages, donnaient une majorité au président parce qu'ils avaient peur.
Le retour de la 4e République, ça marche encore, ça?
Ah oui, oui, c'est un épouvantail.
Après, parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle est terminée.
C'est un épouvantail très efficace. Mais le problème, c'est qu'en 86, on s'est rendu compte que c'était une vaste blague et que, au contraire, la cohabitation, eh bien, c'est le système politique, le fonctionnement des institutions dans lequel, justement, il y avait le plus de débats, de respect des parlementaires, la plus grande stabilité de toute la Ve République et qu'au fond, ça fonctionnait très bien. Et moi, je pense que ce qu'on présente aujourd'hui comme un danger pour la Ve, attention, le président n'aura pas de majorité au garde à vous, ça peut être une grande chance pour la Ve parce que, justement, on aura un parlement qui pourra débattre et c'est son rôle.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La présidentielle va-t-elle accoucher d'un régime parlementaire? C'est la question que nous posons ce soir à Marianne Commandé, constitutionnaliste, Olivier Rocon, politologue, et Hélène Becmézion, journaliste. Si je vous écoute ce soir, je serais presque tenté de me dire que finalement on se focalise sans doute à juste titre, sur cette présidentielle, parce qu'il faut dire que la campagne est particulièrement atypique, disons. Mais est-ce que l'élection la plus importante, ou les élections les plus importantes, ça ne serait pas les législatives qui vont suivre, Olivier Rocon?
Disons qu'on finira par détourner le sens de la démocratie et des équilibres institutionnels à force d'hyper-présidentialisation, je dirais même d'hystérie présidentielle. C'est-à-dire que là, on voit bien que cette présidentielle... Et là, le dispositif de la primaire a encore rajouté, à la fois dans le temps, mais aussi sur la personnalisation, j'allais dire, à cette dérive. Et on se rend compte que depuis le quinquennat, l'abstention législative ne cesse d'augmenter, jusqu'à 42%. Et donc, ça, c'est un gros problème pour la démocratie, parce que...
Oui, mais sauf que cette fois-ci, Olivier Rocon, on a l'impression qu'au soir du 7 mai... rien ne sera vraiment réglé et qu'il restera encore effectivement à ce nouvel exécutif à essayer d'obtenir une majorité et que c'est vraiment là que ça va que tout va
mais
jouer.
Je ne suis cependant pas sûr qu'il y ait une véritable campagne pour les législatives autonome sur le fond. Et déjà, les gens chez Macron vous disent il faudra absolument confirmer le succès en ayant des députés majoritaires. Donc cette logique-là, elle va encore peser. Les législatives vont être saturées sur le fond par la présidentielle. Et ça, c'est un problème parce que les législatives, c'est quand même le pouvoir délibératif, comme il a été rappelé. Et donc, à partir de là, il faut trouver un système quand même pour rééquilibrer les choses. Et peut-être que il faudrait, alors je ne sais pas s'il faut dire rétablir ou inverser, mais peut-être inverser le calendrier électoral pour la fois suivante et mettre les législatives avant la présidentielle pour corriger un peu le tir.
Il faut modifier le calendrier, il faut peut-être modifier un peu les institutions, Marianne Commandé, pour que le Parlement retrouve véritablement son rôle.
Ça me semble inévitable. Sinon, on court à la catastrophe, parce qu'effectivement, depuis des années, la situation ne fait que s'aggraver. L'hyper-présidentialisme ne date pas du quinquennat. C'est bien avant qu'on a eu des abus de pouvoir présidentiel. Déjà, De Gaulle en a abusé et ça n'a fait que s'aggraver pratiquement tout le temps, sauf pendant les cohabitations. Donc, il faudra rééquilibrer les institutions, c'est certain. À mon sens, le plus efficace serait d'adopter une 6e République, justement pour dire, bon, le cadre a changé, on passe à autre chose. Mais il faut se rééquilibrage et il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Parce que la situation qu'on va avoir dans quelques mois, probablement, c'est-à-dire pas de majorité au garde à vous de votre chef, c'est celle qu'on observe dans la plupart des pays. Et pour autant, ils ne vivent pas dans l'instabilité totale. Ils ont une majorité qui se constitue par des négociations entre les principaux partis qui décident d'un programme de gouvernement, c'est le cas dans la plupart des pays, et ça fonctionne plutôt bien, ça incite au respect de l'autre, à l'écoute, au dialogue, et donc à plus de démocratie.
Mais est-ce que cette hyper-présidentialisation, Hélène Becmézion, elle ne s'est pas faite aussi avec la complicité des parlementaires et notamment des députés de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a quand même eu, par exemple, une réforme constitutionnelle en 2008 qui était censée donner davantage de pouvoir aux députés en leur offrant une partie de la maîtrise de l'agenda législatif? Est-ce que ce sont eux qui n'ont pas su utiliser les nouveaux pouvoirs qui leur étaient offerts?
Je pense qu'il y a plusieurs choses, comme toutes les réformes institutionnelles qui n'ont pas été, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été anticipées. Par exemple, il y a une des choses qui a été votée dans la réforme constitutionnelle de 2008, c'est de donner la possibilité au président de s'exprimer devant les parlementaires réunis en congrès. Comme ça, on se dit, bon, c'est pas bien méchant. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux, de beaucoup plus vicieux. Puis on l'a vu là avec le congrès qu'a tenu François Hollande juste après les attentats de novembre, où il a fait ce qu'on a appelé ce serment de Versailles. L'expression vient de l'exécutif sur la déchéance de nationalité. Et en fait, on s'est rendu compte, ce que certains avaient déjà vu en 2008, mais pas suffisamment, que de laisser le président venir s'exprimer devant les parlementaires, ça renforçait un petit peu la pression que l'exécutif met sur les élus. Et on voit bien qu'on est à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus comme dans un régime présidentiel aux États-Unis où il y a ce congrès de l'Union, ce discours de l'Union, pardon, que fait tous les ans le président et qui est assumé, qui est clair. Le président s'exprime, donne les grandes lignes devant les parlementaires. Là, on n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de discours ritualisé, mais le président, quand il le veut, peut convoquer un congrès et venir s'exprimer devant. Ça, effectivement, les députés et les sénateurs l'ont voté en 2008, je pense, sans vraiment mesurer ce que ça allait engager. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu quand même des réformes qui ont permis la limitation du 49-3. Il y a des choses qui sont allées aussi dans le sens des parlementaires, de donner plus de pouvoir aux parlementaires.
Alors, on a du mal d'ailleurs à se souvenir ce que ça pouvait être l'usage du 49-3 avant, parce qu'on a vu avec la loi travail que le 49-3, bien que limité dans son usage, avait quand même bien été...
C'est-à-dire que là, ce qui était particulier, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que c'est la première fois, je crois, qu'on utilisait le 49-3 alors que le président avait une majorité. Michel Rocard l'a utilisé je ne sais combien de fois, mais il n'avait pas de majorité. Il n'avait pas de majorité claire pour son projet, donc c'est plus compréhensible.
Je vous vois dodeliner de la tête.
Non, mais c'est vrai.
Je ne sais pas si on peut dodeliner d'autres choses d'ailleurs.
Mais toujours est-il que le 49-3, ce débat sur le 49-3 est quand même. Il faut une démocratie gouvernable. Il faut quand même qu'un exécutif puisse, à un moment donné, en prenant des risques pour la suite, on le voit bien, mais faire passer ses politiques publiques. Sans quoi, on va retomber dans le reproche récurrent 4e République, tout ceci dysfonctionne et on n'avance pas. Bon. Donc le 49-3 est vraiment un problème, je n'en sais rien. Dans tous les cas, si on veut plus de diversité à l'Assemblée, notamment un peu de proportionnel, il faut quand même que l'exécutif puisse discipliner à un moment donné l'Assemblée. Vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe ailleurs, la motion de censure constructive. Je trouve que c'est un bon système, parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement et que vous voulez le démettre, motion de censure, il vous propose une solution de rechange, et donc c'est constructif. Ça, je trouve que ce serait bien, parce que c'est beaucoup plus positif que ces calculs parlementaires pour la suite qui donnent lieu à des frondes, mais on n'est que dans la déconstruction des choses et pas dans une approche positive. Et sur le voilà.
Juste d'un mot, cette motion de censure constructive, c'est-à-dire elle serait dirigée contre qui?
Si vous
contre
voulez
le gouvernement,
si
le président
les députés
de la République
veulent censurer le gouvernement, hein, motion de censure, c'est dans le cadre du rapport de responsabilité du
gouvernement
face à l'Assemblée. Oui, parce que le président, il est irresponsable pour des raisons ordinaires dans notre système.
Hein. Je me demandais si c'était une proposition que vous faisiez.
Ah oui,
de faire une motion de censure qui puisse être dirigée contre le chef de l'État.
Non, parce que je pense que, ou alors on appellera. Un premier ministre fort, un président arbitre, ça peut être des lignes de fuite, une des solutions à venir. Il suffirait de transférer au premier ministre, pour qu'il devienne fort, le droit de dissolution et le référendum. On aurait un président arbitral et lui pourrait être alors démis, mais en vertu d'une motion de censure constructive, c'est-à-dire que les députés sont obligés de trouver un remplaçant et un programme de gouvernement de remplacement.
C'est très intéressant sur la motion de censure, parce qu'on l'a vu au moment des 49-3 sur la loi travail et sur la loi Macron, et des motions de censure qu'ont établi l'opposition presque comme un automatisme. Effectivement, on sentait bien qu'ils n'étaient pas responsables finalement. Mmh. Il y avait une espèce de déresponsabilisation. On fait la motion de censure parce que la Constitution nous le permet, mais bon, voilà, on ne réfléchit pas vraiment. On voyait bien qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à faire tomber le gouvernement, parce qu'il n'y avait pas de projet derrière, parce qu'il n'y avait pas de contre-proposition. Et effectivement, ça, c'est ça aussi, cette cinquième, elle conduit à une déresponsabilisation, moi ce que j'appelle à une infantilisation des parlementaires, qui finissent par se comporter comme tels.
Alors, sur ce qui relève de la répartition en fait des pouvoirs que vous évoquiez, Olivier Roucan, entre le président de la République et le Premier ministre. Donc je rappelle que ça fait l'objet de votre thèse, Marianne Courandet, sous la cohabitation. Je voudrais vous faire écouter, on l'a évoqué aussi au début d'émission, le général de Gaulle, évidemment, le père de la Ve République. Nous sommes en 1964, conférence de presse du 31 janvier, et il évoque justement ce qu'il considère être le rôle du Premier ministre.
Je ne crois pas non plus qu'il soit normal, ici, de confondre dans la même personne le président de la République et le Premier ministre. Oh, naturellement, il ne faut pas qu'il y ait de diarchie au sommet, mais il n'y en a pas. Le président est naturellement le seul détenteur de l'autorité de l'État. Mais justement, la nature, l'étendue, la durée de sa fonction exige qu'il ne soit pas absorbé par la conjoncture politique, parlementaire, économique, etc. Cela, c'est le lot. D'ailleurs, aussi méritoire que complexe et qu'essentiel du Premier ministre français.
Alors Marianne Courandet, cette 6e République dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle pourrait finalement ressembler à notamment cette conception du pouvoir dont parlait le général de Gaulle en 1964, c'est-à-dire avant son élection au suffrage universel direct?
Oui, alors cette conférence de 64, elle est un peu spéciale parce que c'est de Gaulle qui va dire « Attention, quand je serai élu directement par le peuple, je serai le seul chef. » Et c'est pas du tout ce qui est prévu dans le texte. Donc comme on parle de régime, je voudrais tout de même prendre une petite minute pour rappeler ce qu'on peut entendre par régime. Quand vous nous demandez « Est-ce qu'on va changer de régime ?» si on entend le régime au sens strict comme étant l'organisation des institutions prévues par le texte, le régime est déjà parlementaire dès lors que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et ça, c'est très important parce que le principe fondamental du régime parlementaire, c'est vous n'avez le droit de gouverner que si vous êtes choisi par les représentants du peuple que sont les députés et si vous êtes contrôlé en permanence par eux. Ça veut dire que c'est le gouvernement, à l'exclusion du président, qui détermine et conduit la politique de la nation, comme c'est prévu à l'article 20, justement parce qu'il est soutenu par la majorité parlementaire et parce qu'il peut être révoqué à tout instant.
Sauf qu'on sait bien qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas forcément un parlementaire et que le gouvernement, un gouvernement qui s'installe, ne va pas automatiquement aller demander aux parlementaires d'être adoubés.
Voilà. Alors que selon le texte, dans son interprétation stricte, il devrait le faire. Donc le principe du régime parlementaire, c'est ça. Mais de Gaulle, un peu grisé par le pouvoir, comme le disait Michel Debré, de Gaulle a concentré les pouvoirs dans sa personne et donc fait dévier la pratique de ce régime vers une pratique présidentialiste. Mais cette pratique est dangereuse et assez peu démocratique. Et elle peut être dangereuse justement si on a une personne pas très démocrate au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se souvenir que le régime au sens strict, c'est le texte, et la pratique, on préfère parler de système pour voir comment ce texte est appliqué.
Donc la question qu'on aurait peut-être dû poser ce soir finalement, mais c'est comme ça aussi en réfléchissant qu'on arrive à affiner un peu les choses, ça aurait pu être la présidentielle. Va-t-elle nous renvoyer aux origines de la Ve République? Ça aurait peut-être été un peu plus juste, Olivier Roucan.
Oui, c'est-à-dire que la question de fond, si on parle du système, c'est tempérer le présidentialisme, finalement. Et le faire avec du délibératif, du collectif, parce que ce qu'il y a en toile de fond de cette affaire, c'est le niveau extrême de défiance politique et de rupture du lien qu'il y a aujourd'hui entre les citoyens et les dirigeants. Donc il faut refabriquer de la confiance.
Et en particulier à l'égard des derniers chefs de l'État, hein, Nicolas Sarkozy, François Hollande, on ne peut pas dire qu'ils aient fini avec des niveaux de popularité très enviables.
Également, dans le cadre du quinquennat, on le voit, chaque président élu est de moins en moins longtemps populaire. Et de plus en plus profondément impopulaire. Donc on voit, il va falloir que ça s'arrête, on va dire.
Donc il faut en finir avec le président, avec la fonction présidentielle.
Disons qu'il faut faire un choix pour... Parce que je pense que la confiance, elle est fondée d'abord sur la lisibilité des choses. La méfiance, c'est pas les institutions qui sont la cause de la méfiance et du rejet du politique, mais il y a maintenant une variable institutionnelle qui dessert la confiance, je dirais, du fait de la confusion et du fait du manque de collectif et de délibératif, c'est-à-dire ce Parlement étouffé. Mais on a vu finalement que tout le monde perd en ce moment, le président, le Premier ministre qui est coincé et le Parlement qui ne s'est pas approprié. Je serais peut-être un peu plus, moi, sévère vis-à-vis des députés. Je pense que ils se plaignent souvent de l'exécutif, mais ils se sont pas appropriés le texte de 2008. Notamment sur le contrôle et l'évaluation des politiques publiques. Ça tourne au ralenti, alors que là, c'est de leur fait. Hein. Ils n'ont pas une pratique à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne quand ils vont contrôler les administrations.
Alors eux, vous rétorqueront qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de contrôle aussi.
Voilà, donc tout ça doit se mettre en place, sans doute. Mais enfin, ils peuvent avoir l'aide désormais de la Cour des comptes et du Conseil d'État. Il n'est pas dit qu'ils les utilisent autant que de besoin. Bon, toutes ces affaires, ça va être important dans les années qui viennent. Mais c'est pas pour déstabiliser l'exécutif, c'est simplement avoir une démocratie plus mature. On accepte pleinement le contrôle parlementaire et dans la discussion. Et c'est ceci qu'il faut faire passer auprès de l'opinion publique. Et ça, c'est très, très dur parce qu'on est à l'heure du buzz. On est à l'heure de l'outrance. On le voit dans les campagnes électorales. Donc, expliquer le sens de la délibération, l'importance de ce jeu parlementaire qui passe pas dans l'opinion. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a ces disjonctions, finalement. Ça va être un des enjeux des années qui viennent. Et ça repose beaucoup sur la communication et donc sur les acteurs. Moi, je proposais, par exemple, juste je termine là-dessus, que les parlementaires soient obligés d'organiser des concertations pendant la durée de leur mandat, dans leur circonscription, sur des amendements ou sur des rapports d'information dans lesquels ils s'investissent.
Il y en a qui le font déjà beaucoup, oui, qui l'ont fait au cours du dernier quinquennat. Non, qui le font beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais parce que je pense que ça correspond aussi, on parle de défiance, à une évolution des mentalités, si on peut dire, qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'accepte plus de dire « on vote une fois ». Et après, on vous laisse tranquille pendant 5 ans. Ça, c'est quelque chose qui ne passe plus du tout. Voilà. Et ce système très vertical où on élit nos représentants qui décident, on leur fait confiance, aujourd'hui ne passe plus. On voit bien, et on le voit pour d'autres choses, qu'on est passé dans un système beaucoup plus horizontal, beaucoup plus collaboratif, où il y a une envie des citoyens de participer régulièrement. Alors, ça demande aussi qu'ils s'impliquent, ça demande du travail de leur part qui n'est pas toujours fait parce que je pense qu'il y a une certaine fainéantise qui s'est installée peut-être chez les citoyens aussi. Mais voilà.
Peut-être qu'il faudrait aussi les faire voter plus souvent, les citoyens, et réduire par exemple la durée du mandat, Marie-Anne Courandet, juste
oui,
d'un mot.
Ça peut être une des options, parce qu'effectivement, le gros problème, c'est qu'il faut contrôler le pouvoir. Le problème majeur de la cinquième, c'est que celui qui dirige en fait les institutions est incontrôlable, à peu près indéboulonnable pendant 5 ans. Ça, les gens n'en peuvent plus, ils ne veulent plus donner de chèque en blanc à qui que ce soit, et donc on peut réduire les mandats, et surtout si on donne le pouvoir au Premier ministre, comme dans le texte de la Constitution, eh ben, on peut le contrôler. Et le révoquer.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marie-Anne Courandé, Olivier Roucan, En finir avec le président, c'est publié aux éditions François Bourin, Hélène Beck-Mézian, J'irai dormir à l'Assemblée chez Grasset. Vous n'allez pas dormir tout de suite, Hélène Beck-Mézian, puisque dans le cadre de vos fonctions au Monde.fr, vous allez suivre le débat de ce soir entre 5 des candidats à la présidentielle. Alors, on termine un petit peu plus tôt cette émission par rapport à d'habitude, puisque comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, depuis ce matin, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, est en notre compagnie à l'occasion de la journée de la langue française. Ces mots de la langue française, elle nous les propose depuis ce matin. Tout de suite, c'est son ultime chronique, la 8e nocturne.